France Culture.
Je me suis fait taxer de féministe. À partir de là, le bruit s'est répandu, notamment dans la ville, que j'étais féministe. Ce qui ne me dérange pas du tout, parce que je le revendique sans souci.
Carole Thibault, directrice du Théâtre des Ilets à Montluçon.
Et donc, on a commencé à dire ici que c'était un lieu féministe. Et donc ça, féministe, c'est vraiment les vieilles sorcières, là. Ici, on ne parle pas de wokisme. À Montluçon, on parle de féministe. Donc, je me suis retrouvée un jour avec un spectateur qui est arrivé. Il a dit, j'aurais parlé avec la directrice. Et le vieux monsieur dit, moi, je voulais vous dire que votre programmation féministe, ça nous va pas. C'est vraiment un scandale. Alors, j'ai dit, OK, monsieur, vous appelez quoi programmation féministe? Bah là, tous vos trucs. Alors, je dis, mais prenons la plaquette et regardons. Non, c'est pas la peine. Je sais ce que je dis, etc. Donc, je dis, mais vous venez au théâtre? Non, je viens pas. Je veux pas voir de programmation féministe. Alors, je dis, mais venez. Bon, alors, conseillez-moi un truc. Je lui dis, écoutez, moi, je vais faire ma prochaine création là dans un mois. Ça s'appelait La petite fille qui disait non. Ça parlait quand même de trois générations de femmes sur le fil du conte du petit chaperon rouge et d'une histoire de transmission de femmes. Donc, on ne pouvait pas dire que c'était un truc hyper masculiniste. Et donc, je lui dis, écoutez, c'est le prochain spectacle, venez. Et il vient, il sort du spectacle et dit, voilà. Ça, c'est bien, vous voyez, ça, j'appelle ça du théâtre pas féministe.
La culture sous pression. Une série documentaire de Bruno Binquet, réalisée par Agnès Catou. Deuxième épisode, la guerre culturelle sur scène. Depuis les années 1980 et les ministères de Jack Lang, la culture s'était imposée comme un théâtre politique dépassionné. De gauche comme de droite, les responsables politiques maintenaient voire déployaient les équipements et les festivals culturels, conscients de l'importance économique et symbolique que cela pouvait avoir sur leur territoire. Mais à l'image de la société qui se fracture, la création redevient un champ de la guerre culturelle. Les manifestations, les appels à la censure, à la déprogrammation, les intimidations, toutes ces méthodes, jusqu'alors réservées aux groupes intégristes, se voient aujourd'hui reprises par une partie grandissante du champ politique. Aux côtés des intellectuels ou des scientifiques, les artistes sont devenus des épouvantails commodes pour des responsables politiques qui voudraient montrer leur proximité avec le peuple. Accusés de tous les maux, la création théâtrale est l'objet d'attaques qui se systématisent et qui doivent nous alerter.
Pour moi, le théâtre, c'est pas un endroit militant. C'est pas partisan ni militant, enfin. C'est l'endroit de la complexité, c'est l'endroit de l'ambiguïté, c'est l'endroit de la complexité humaine, de l'ambivalence. Donc, c'est absurde de dire wokiste, féministe, tout ça. De toute façon, wokiste, ça veut rien dire. Je veux dire, c'est une insulte qui a été balancée pour essayer de stigmatiser quelque chose. C'est une restigmatisation. Moi, le problème que j'ai, c'est que les gens qui nous taxent de quoi que ce soit n'ont jamais mis les pieds ici. Il faut quand même savoir que les élus de Montluçon n'ont jamais mis les pieds ici, sauf quand l'État m'a remis la médaille de l'Ordre National du Mérite. Là, ils étaient tous là. Ah oui, là, la médaille, ça fonctionne. Par contre, il n'y a pas un, même l'adjoint à la culture, qui est venu voir un seul spectacle. En revanche, au dernier comité de suivi, avec les tutelles, on a été taxé d'avoir eu des artistes qui avaient montré leurs fesses sur scène. C'était vraiment un scandale. Alors que c'était une soirée cabaret, et on ne voyait absolument rien. Et cet adjoint n'était même pas venu voir le spectacle. C'était des on-dit qu'on lui a rapportés. Et donc, au lieu de faire son travail d'adjoint, de venir voir, de réfléchir, de discuter avec nous, non, on n'est pas encore à un état de censure, parce qu'heureusement, on est protégé par l'État. Mais il y a des attaques systématiques sur des endroits de création artistique.
Ça, pour moi, c'est une première brèche, en fait.
Joris Mathieu, auteur-metteur en scène, ancien directeur du théâtre Nouvelle Génération à Lyon, et co-président du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles.
C'est une première brèche qui participe du même mouvement de ce que l'on peut entendre ou observer, pas si fréquemment que ça, mais quand même régulièrement, de déclarations politiques, d'intentions générales, se questionnant sur la pertinence qu'il y aurait à soutenir par de l'argent public tel artiste ou telle œuvre, qui serait, selon eux, disqualifiable parce que wokiste, par exemple, donc idéologue gauchiste, voulant créer du désordre et du chaos dans la société. Je le dis volontairement de manière caricaturale et à gros traits, puisque c'est finalement quelque chose qui a été inventé et bâti de toutes pièces pour fabriquer un nouveau chiffon rouge dans l'opinion publique. Je veux pas surdramatiser la situation. Mais je pense qu'on est arrivé à ce point de bascule où on est devenu trop flou et on a finalement trop remis en cause l'intégrité de la loi sur cette question de la liberté d'expression, de la liberté de création, de la liberté d'opinion. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de connaître l'avis de tel ou tel politique sur ce qu'il pense intimement de telle ou telle œuvre. D'abord, la liberté d'expression et la liberté d'opinion, qui est inscrite comme une loi fondamentale, d'où découle, lorsqu'on est nommé à la direction d'une structure, une liberté de programmer des œuvres selon son appréciation et selon des critères qui sont les nôtres, hein, d'évaluation en termes d'intérêt des contenus, d'intérêt des formes esthétiques développées, en l'articulant autour d'un projet pour le rendre accessible au public. En tant qu'artiste, on a une liberté d'expression. Il existe même en France le droit de parodie, qui est très important, puisqu'il permet de parodier ou de critiquer le pouvoir politique en toute liberté. On peut être très clair en disant qu'on est rentré dans une période où ces libertés, elles sont quand même mises à mal. Et on l'observe de plus en plus régulièrement au sein de notre syndicat. On est de plus en plus souvent saisi ou alerté par des adhérents qui, rarement explicitement, mais très souvent implicitement, ont subi des pressions. C'est rarement possible d'attaquer en justice, puisqu'il y a rarement d'écrits ou rarement de preuves. Donc ça procède aussi d'une manière un peu perverse, implicite.
Les politiques culturelles sont actuellement prise en otage d'un certain nombre de passions tristes, on pourrait le dire comme telles, qui s'emparent de la culture.
Vincent Guillon, co-directeur de l'Observatoire des politiques culturelles et professeur de politique culturelle à Sciences Po Grenoble.
Et qui cherche, dans une perspective plutôt conservatrice, à mettre les politiques culturelles au centre de guerres culturelles ou de guerres de valeurs. Pendant longtemps, le débat politique autour de la culture a plutôt émané d'un certain nombre de groupes d'acteurs qui cherchaient à renouveler les politiques culturelles du point de vue de la reconnaissance de la diversité culturelle ou de la multiplicité des formes culturelles. Et ce que l'on voit, c'est que les alternatives en matière de politique culturelle qui sont en train de gagner du terrain, sont plutôt des alternatives qui témoignent d'un tournant, on pourrait dire, néo-droitier de cette politique publique.
Peut-être d'abord, comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on a pu observer dans un premier temps? Moi, il y a quelque chose qui m'a perturbé. Comment dire ? On a vu apparaître ce qu'on a appelé un contrat d'engagement républicain ou un pacte de respect des chartes, des valeurs de la laïcité ou de la République, qui est apparu dans différentes collectivités, puis que c'est un peu généralisé, qui nous a toujours posé question. C'est un contrat que doit signer toute association subventionnée pour s'engager à respecter les valeurs de la République. Pour moi, il n'y a rien aujourd'hui qui motive la nécessité d'un tel contrat, puisque justement on a des lois qui définissent ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire, ce qu'on a le droit de faire, ce que l'on n'a pas le droit de faire, ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. On sait qu'on n'a pas le droit d'inciter à la haine, on sait qu'on n'a pas le droit de tenir des propos racistes, on sait qu'on n'a pas le droit d'appeler à la criminalité ou à la violence, et finalement personne n'y échappe. Peut tomber sur le coup de la loi. L'apparition de ces chartes d'engagement, ça veut dire que ça introduit une voie de contournement du droit qui pourrait reposer sur une interprétation plus subjective par le politique de ce qui respecte les valeurs de la République et ce qui ne les respecte pas. Et donc moi je me méfie en fait quand commencent à converger des outils administratif avec des déclarations d'intention générale publique qui pourraient permettre finalement de faire le tri entre ce qui serait respectant des valeurs morales de telle ou telle vision politique, d'ailleurs quelle que soit la vision politique. Je veux dire, dans des temps particulièrement troubles comme ceux qu'on est en train de vivre, créer des outils qui, placés entre les mains de pouvoirs autoritaires, leur permettent d'exercer un contrôle sur ceux qui respectent les valeurs de la République et ceux qui ne les respectent pas, me semble particulièrement dangereux.
Le premier ingrédient, finalement, de cette alternative ou de ce tournant néo-droitier des politiques culturelles, c'est un conservatisme culturel assumé. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'élus mettent en avant, de façon assez frontale, la cause identitaire, la valorisation des traditions, la glorification des histoires françaises ou des racines chrétiennes de la France, et une priorité forte donnée au patrimoine. L'un des exemples de cette orientation politique-là réside, par exemple, dans le succès actuel de tous les spectacles historiques qui cherchent à soutenir un roman national qui n'est pas le roman national de la diversité autour des questions de démocratie culturelle et de droit culturel, mais qui est plutôt un roman national plus sélectif, plus unitaire du point de vue de son expression, et qui se traduit également par un rejet assez frontal des sujets écologiques ou encore des sujets de genre tels qu'ils peuvent s'exprimer dans les productions artistiques et culturelles.
Nous voici revenus tout près du millénaire, au sommet du donjon du premier puits du fou, sur la première motte, tout près des premiers êtres, au péril des fossés, des barbares et des loups. Donjon de l'inquiétude qui guette les dracars, protège les foyers de l'ancien bourg Bérard, protège la famille d'Aldéric et Cybèle, qui sortent de l'église éternelle.
Ce que la droite a jamais compris, c'est que la culture et la politique vont ensemble, mais qu'il n'y a pas de politique sans culture. Et c'est pas avec l'économie qu'on remplace la culture.
Philippe Devilliers, ancien député européen, fondateur du Puy du Fou, décembre 2024.
C'est Gramsci qui dit très bien, d'une phrase, les victoires culturelles précèdent les victoires politiques. Elles les préparent et les engendrent. Alors le problème, c'est que la bourgeoisie mondialisée, elle vit dans l'entre-soi. Donc c'est le même théâtre, les mêmes pièces, les mêmes acteurs, les mêmes metteurs en scène. Ils tourneront et l'article du Monde dit... Ah, c'est terrible. Oserais-je le répéter? Le peuple est parti. Et vous savez où il est parti, Eliott, le peuple? Oh, purée.
Au Puy du Fou.
Au Puy du Fou.
Une catastrophe.
Et l'article se termine par « La guerre des imaginaires est déclarée ». Alors, les deux imaginaires, vous avez l'imaginaire post-français, de la transmémoire. Bon, on a vu ce que ça donnait cet été. Avec la cérémonie des Jeux, donc le déracinement complet, et puis l'autre imaginaire, l'imaginaire qui veut faire aimer la mémoire vivante du dépôt millénaire, qui veut faire aimer notre art de vivre ancestral, qui veut faire aimer notre langue, qui embrase notre imaginaire, et qui veut surtout qu'on puisse demain, nous, nos enfants et nos petits-enfants, aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes.
Aujourd'hui, il y a une pensée de politique culturelle, elle est portée par l'extrême droite, très clairement. C'est les seuls partis en France, Zemmour, Le Pen et les autres, Bardella, qui développent des idéologies culturelles sur qu'est-ce que c'est qu'être français. On le voit aujourd'hui ici avec la région qui finance Murmure de la Cité au Centre National du Spectacle de Scène, c'est-à-dire la plus grosse institution nationale de l'Allier, où on a une vision de l'histoire de France, qui est une vision réactionnaire, conservatrice et, il faut bien le dire, d'extrême droite, très clairement, et qui est financée par Pierre-Édouard Sterrin. Donc tout ça est un joyeux mélange. Et je pense que c'est lié aussi à une espèce de paresse des politiques culturelles depuis une vingtaine d'années, qui a laissé les choses continuer à fonctionner bon an mal an, Donc oui, on a des politiques culturelles aujourd'hui, mais malheureusement, pas à l'endroit qui me semble, en tout cas pour ce qui me concerne, être constructive et une réflexion réelle d'une évolution sociétale telle qu'on l'a eue sur une grande partie du XXe siècle.
Ouais, je n'ai pas beaucoup de leçons à recevoir de quiconque, mais notamment pas les réactionnaires qui n'ont que la culture nationale à la bouche sans jamais la fréquenter. Moi, je m'en occupe tous les jours, par exemple de la langue française.
Benoît Lambert, directeur de la Comédie de Saint-Étienne.
Moi, je m'occupe tous les jours de la langue française. Je ne pense pas que les gens qui s'insurgent sans jamais ouvrir la porte d'un théâtre, ni même ouvrir un livre écrit dans leur langue, aient grand-chose à nous apprendre sur ce que c'est que défendre notre culture. Moi, je travaille dans un centre dramatique national, et je tiens beaucoup à ce mot, c'est-à-dire qui fait partie d'une politique de la nation, mais conçue dans une acception qui est celle de 1789, pas celle de la Vendée de 93, ou pas celle de Versailles en 1870, et certainement pas celle de Vichy en 1942. Je veux dire, les républicains, c'est nous. Je sais bien qu'ils ont, à un moment donné, essayé de voler tous les mots, et notamment celui-ci, mais la vraie politique républicaine, c'est celle que nous menons. C'est-à-dire qu'en plus, nous, c'est une politique d'intégration. Je rappelle à ceux qui viennent nous chercher des poux dans la tonsure que, malgré tout, ici, dans une école supérieure d'art dramatique, nous, on s'occupe un peu sérieusement de notre patrimoine, de notre langue, de la façon de la dire, de la façon de la défendre et de la façon de la porter.
Ce qui s'est passé en 81 n'est pas tombé du ciel.
Jack Lang, ancien ministre de la Culture, janvier 2017.
Et n'est pas sorti du seul cerveau, la personne que je suis aujourd'hui, ou de François Mitterrand, ou d'autres, ils étaient d'ailleurs très nombreux. Il faut bien comprendre que c'est un processus, c'est extrêmement important, qu'il y a eu une genèse dans la société, partout, parmi les intellectuels, les artistes, et le Parti communiste y a sa part. Et les mouvements d'éducation populaire y ont leurs responsabilités, et des fonctionnaires éminents comme Jeanne Laurent, et puis la Troisième République, Jean Zay, Jean Jaurès. Donc si vous voulez, la période historique dans laquelle tout cela s'est produit est une période, disons, d'épanouissement ou d'explosion ou de tout un processus. Mais on a pu, parce que, je répète, nous étions en quelque sorte consolidés, appuyés par une idéologie dominante à gauche, qui n'est plus aujourd'hui, franchement, que l'art, l'éducation et la culture devaient constituer les socle même d'un vrai changement social et humain.
Lorsque les socialistes sont arrivés au pouvoir national,
Guy Saez, directeur de recherche honoraire au CNRS et membre du comité d'histoire du ministère de la Culture.
Aux premières élections municipales, il y a évidemment un revers très cinglant et beaucoup de collectivités de grandes villes sont passées à droite. Et certaines d'entre elles, comme par exemple la ville de Nantes ou la ville de Compiègne, la ville de Châlons, ont dénoncé les contrats et conventions qui les liaient au ministère. Et donc on dit « nous ne voulons plus de l'argent du ministère socialiste ». Et en fait, elles l'ont payé très cher. Parce que leurs électeurs leur ont dit en gros « nous, ce qu'on veut, c'est avoir accès aux biens culturels comme tout le monde ». Et donc à partir de ce moment-là, on voit que la politique culturelle est un peu hors jeu de la conflictualité partisane. Elle n'y reviendra que très tard, de façon très marginale d'abord avec le Front National, et aujourd'hui, alors au contraire, elle est devenue centrale.
Alors ce qui est vrai, c'est que jusqu'ici, le modèle de partenariat public entre l'État et les collectivités territoriales reposer sur un consensus politique autour des valeurs et des objectifs à donner à une action publique dans ce domaine. Ce consensus politique est mis à mal. Là, on voit de plus en plus de positionnements politiques, de postures politiques qui se construisent au contraire dans un rapport défiant qui consiste à croire que l'on peut tirer un bénéfice politique ou capitaliser politiquement sur un désinvestissement d'un secteur culturel qui est considéré comme un monde d'entre-soi, un monde d'élite contre le peuple et sur lequel il peut être bon teint de taper pour paraître proche des catégories de la population qui en sont éloignées. Par exemple, dans un certain nombre de conseils régionaux, comme en Bourgogne-Franche-Comté, en Nouvelle-Aquitaine, un certain nombre de conseillers régionaux d'extrême droite s'attaquent ouvertement à l'art contemporain, à la danse contemporaine, qui sont jugés soit trop idéologiques, soit simplement inutiles. Il n'est pas rare non plus de voir un certain nombre de prises de position qui n'avaient pas lieu il y a encore quelques années au sein de conseils municipaux de la part d'élus de plusieurs couleurs politiques, d'ailleurs remettant en question les partis pris idéologiques de tel ou tel acteur ou remettant en question l'acceptabilité d'une œuvre pour les publics. Donc là, on a finalement une perte d'autonomie du champ culturel qui se fait de plus en plus interpeller frontalement par le personnel politique et ce qui donne lieu à des décisions de retrait de soutien ou de déprogrammation ou de désolidarisation d'un certain nombre de programmes artistiques et culturels qui caractérisent, je crois, bien l'époque.
Ce samedi 8 mars, le rideau s'est levé sur une nouvelle page culturelle à Hénin-Beaumont.
Réouverture du Théâtre de l'Escapade à Hénin-Beaumont, mars 2024.
Le Théâtre municipal de l'Escapade a rouvert ses portes et c'est un public nombreux qui a répondu présent à l'invitation. Sous l'impulsion de la nouvelle gestion municipale, le théâtre vivra désormais au rythme des week-ends avec une programmation de qualité pensée pour être accessible à tous. Pour cette soirée inaugurale, le choix s'est porté sur le spectacle B plus B égale BB et si Brigitte Bardot m'était comptée.
Aime-moi, aime-moi, la vie n'est qu'un rêve.
Je suis Jean-Yves Coffre et donc j'ai été le directeur de l'Escapade Théâtre à Hénin-Beaumont d'octobre 2020, on va dire à 2024, suite aux pressions. Quand je suis arrivé donc à Hénin-Beaumont, le RN était là depuis 5 ans à peu près. J'ai été plutôt bien accueilli, donc on m'a dit « vous avez totale liberté d'expression, la municipalité ne se mêlera jamais de la programmation de l'escapade, c'est votre projet artistique ». Mais leur stratégie est assez pernicieuse. Donc au bout de 2 mois, il y a plusieurs choses qui me gênent vraiment. C'est de voir en fait que la municipalité pouvait prendre la salle si elle en avait besoin sous 15 jours. Et là, j'ai un peu tiqué, vraiment, parce que j'ai dit non, en fait, là, on peut pas avoir une double programmation. Je ne peux pas en fait avoir un partage. Ce théâtre, ce n'est pas une salle des fêtes. Et petit à petit, on m'a obligé. Donc, j'avais laissé justement la place à un festival de covers. Ce sont des groupes qui font des reprises de groupes célèbres, plutôt des années 80, très populaires, comme David Bowie, Queen. Voilà, on est dans du divertissement et pas dans de l'éducation artistique et culturelle. Voilà. Et petit à petit, ils ont mis en place des choses beaucoup plus stratégiques, dont je n'ai pas pu me sortir. Premièrement, donc, ils me demandaient de plus en plus de dates, que j'ai refusées. Et donc, on me dit, dans une réunion, nous, on a un problème, le maire est très en colère, puisque on fait tout pour vous, et vous refusez les dates. Donc, du coup, on va vous envoyer une lettre en recommandé, parce que vous devez nous mettre à disposition le théâtre. Donc, aucune discussion possible. Et là, on m'envoie 2 personnes qui ne connaissaient absolument rien à la culture. On me les imposait dans un poste de chargé de communication qui était tout à fait des agents doubles, vraiment. Donc là, il y a eu une chape de plomb qui est tombée sur nous. C'est-à-dire que dans toute l'équipe associative, on n'osait même plus parler. On avait l'impression que tout était répété. Et là, la mairie, en fait, menace et met à exécution une plainte pour harcèlement moral vis-à-vis de ses employés municipaux, parce que je ne les fais pas travailler. Je craque en fait aussi complètement et je ne peux pas reprendre. Moralement, c'est impossible pour moi, physiquement aussi, c'est impossible de remettre les pieds dans cette ambiance. C'est un petit tricotage fin, en fait, sur la pression et l'oppression qu'ils arrivent à mettre sur les personnes. Donc voilà, fin décembre, ils ont envoyé cette lettre comme quoi ils récupéraient les bâtiments. Et donc depuis janvier 25, ils ont mis en place leur programmation. Bah, une programmation, comme on s'en doute, donc des hommages à Sheila, un spectacle sur la vie de Brigitte Bardot. Donc voilà un peu la direction artistique. C'est des paillettes et du divertissement. Tout le rapport avec les scolaires, pour nous, qui est important, c'est fini, en fait, je pense, tout ça.
Les pressions subies par l'équipe du théâtre de l'Escapade à Hénin-Beaumont ne font plus exception. Si la liberté de création est protégée en France, programmer un artiste qui tient des positions politiques peut conduire à l'arrêt des subventions, voire à l'interdiction. La région Île-de-France et la ville de Saint-Cloud ont annulé les subventions au festival de musique rock en scène pour avoir refusé de déprogrammer le groupe irlandais NICAP qui a tenu des positions pro-palestiniennes. À Saint-Quentin, c'est le rappeur Medine qui a vu son concert annulé. Dans la région sud, c'est l'association de cinéma Courtrajmé qui a vu ses subventions retirées puis rétablies pour avoir un site internet écrit en écriture inclusive. Ces pressions politiques et personnelles prennent aussi des formes plus directes. En 2023, Éric Zemmour et l'ancien député Rassemblement National Gilbert Collard pointent du doigt la metteuse en scène Rebecca Chaillon et son spectacle Carte Noire nommée Désir. Ils jettent en pâture un spectacle qu'ils n'ont pas vu. Mais avec leurs centaines de milliers de followers sur les réseaux, peuvent-ils ignorer que suite à leur prise de parole, l'artiste recevra des centaines de messages racistes et homophobes ?
Il y a aussi l'effet de mouvements, de groupuscules qui mènent des actions directes, qui mènent des opérations de harcèlement sur les réseaux sociaux, des menaces en ligne sur tel ou tel professionnel pour avoir programmé telle œuvre de tel artiste comme si cette liberté d'expression n'était plus autorisée. Et malheureusement, comme on est à l'heure des grands amalgames permanents, ben, on a eu le cas à Lyon, par exemple, dans une structure qui n'était pas la mienne, de mouvements traditionnalistes qui dénonçaient la présence d'un duo d'artistes dans un lieu de création contemporaine en propageant des allégations mensongères, dénonçant qu'ils faisaient des performances nues devant des publics d'enfants, les exposant à la nudité, une hypersexualité, ce qui par ailleurs était entièrement faux, en s'appuyant sur des montages vidéo qui étaient falsifiés. Et donc on voit des opérations en fait se mettre en place qui sont en fait des campagnes diffamatoires et qui, bah, petit à petit, on a du mal à le mesurer, hein, mais ont forcément une incidence sur la manière dont réfléchissent et pensent les programmatrices et programmateurs dans les structures. Ça pèse.
C'était en 2006.
Fia Ménard, metteuse en scène et directrice de la compagnie Non Nova.
À l'époque, je deviens donc artiste associé pour 3 ans au Théâtre Nouvelle Génération, dirigé par Joris Mathieu, à Lyon, à Vaise. Le théâtre va subir des actions néfastes via tout un réseau d'extrême droite et de droite traditionnelle très présente à Lyon sur le fait qu'il invite une artiste trans. Donc c'est ma présence par le fait de présenter un spectacle qui s'appelle Vortex, où je parle de la question de qui nous sommes, de cette transformation nécessaire, de notre adaptation à la société que nous vivons, sauf que moi je la raconte via la question de l'identité, par le fait de m'extraire des peaux et d'autres peaux. Ce sont les premières fois où vraiment je sens que je ne suis pas attaqué en direct, mais par contre c'est les lieux où on va diffusés qui vont être attaqués. C'est-à-dire à quel endroit on va mettre des sortes de freins en disant attention, tel sujet va être dangereux. Le pouvoir finalement de ces censeurs, de finalement une mouvance d'extrême droite de plus en plus présente, eh bien elle s'affiche sur la pression locale. On l'a vu à Hénin-Beaumont, c'est la prise du théâtre. Et donc comment on va isoler les artistes ? La bataille culturelle, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle date depuis très longtemps. La grande question, c'est que, comme toute évolution de société, il y a eu un travail de pensée. Et aujourd'hui, il y a un travail de contre-pensée. C'est-à-dire, il y a une lutte contre l'émancipation.
Il y a des artistes qui peuvent avoir vraiment une position explicitement militante, mais c'est quand même pas le cas unique ni même majoritaire.
Benoît Lambert.
Mais aujourd'hui, il faut bien voir que, pour les forces réactionnaires, le simple fait de poser certaines questions est déjà inacceptable. Alors ça, c'est une grave régression. Donc si un jour le ministère de la Culture se met à dire que « Ah bah oui, mais poser des questions, vous voyez bien que ça défrise une partie de la population. » Alors une partie de la population, de quelle partie, encore une fois ? C'est une minorité extrêmement bruyante et organisée, d'accord, mais c'est pas la population, ça. Il faut quand même pas se tromper. Et ensuite, si poser des questions, c'est devenu un truc orienté idéologiquement, là, c'est plus tellement la peine de parler de démocratie. On a déjà perdu sur ce terrain-là. Donc c'est simplement ça pour répondre face au ministère. C'est-à-dire, je les sens parfois extrêmement prudents face à ce qu'ils pressentent que pourrait être la réaction de certains, etc., etc. Mais au fond, ils surestiment beaucoup le bruit.
La liberté de programmation, elle est mise à mal d'abord par l'inquiétude que les uns et les autres on a. Et donc c'est la première chose qui... Et le danger pour la liberté de programmation, c'est soi-même.
Hortense Archambault, directrice de la MC 93, la Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis, à Bobigny.
Et du coup, il faut être très méfiant à l'égard de soi-même. Et des petites voix qui nous diraient « c'est pas pour mon public, je vais avoir vraiment plein de problèmes si je programme ce spectacle, je vais encore me faire traiter de X, Y, de woke, etc. si je fais ça ». Toutes ces petites voix-là, il faut leur dire « vous êtes gentils, toutes mes petites voix, mais je m'en fous et je vais faire ce qu'il faut que je fasse », c'est-à-dire être un endroit d'ébranlement. Parce qu'au fond, l'art est quand même là pour poser des questions, pour ébranler, pour faire discuter. Et voilà. Après, ce qui est important, c'est là où c'est compliqué aussi, notre société n'est plus tout à fait habituée à ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on instaure des endroits de contradiction, de controverse, qui sont apaisés. C'est tout à fait normal que quelqu'un trouve que c'est pas possible ce qui s'est dit ou ce qu'il a perçu dans un spectacle, voire même qu'il soit heurté par une image qui lui est arrivée. Donc tout le travail en fait de nos maisons de la culture et des équipes, notamment des équipes qui sont au contact avec le public et dans la médiation, c'est de prendre à bras le corps, et c'est un travail très compliqué avec une société qui est de plus en plus à fleur de peau, d'être en capacité de porter les contradictions de la société qui sont parfois éveillées par un spectacle.
Posons-nous la question de notre responsabilité.
Éric Ruff, comédien, metteur en scène, ancien administrateur général de la Comédie Française de 2014 à 2025.
C'est finalement notre public qui vote comme ça, ou c'est notre public qui tombe dans ces pièges-là. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a tendance, nous les artistes, à s'ériger en tant que ceux qui pensent bien, parce qu'on serait haut du bon bord politique, on voit ce qu'il est pour la culture, hein, c'est un tropisme général, ou parce que notre fréquentation des auteurs, des génies, nous amène forcément une clairvoyance qui, quelquefois, nous rend péremptoire. Je lisais encore un livret de saison, là, où je sais pas quels étaient les termes, mais qui était d'apprendre aux gens à réfléchir, qu'ils puissent se situer. Tu dis aux gens, je vais t'apprendre où tu es. La plupart des gens le savent. Ou alors, ils ont des questions à poser sur lesquelles on peut répondre. Mais le fait de dire, je suis dans un point de vue, moi, où je vais t'apprendre à lire le monde, ça me paraît... Pour moi, le théâtre est l'art du paradoxe. C'est-à-dire, ce qu'on est censé faire, nous, c'est poser l'équation et que la personne puisse repartir avec une question. Et que je trouve qu'il y a un réflexe chez nous de dire « je sais ce qu'il faut penser » ou « c'est ma version, donc je t'impose un petit peu le sens que j'ai » et qu'il y a finalement presque une violence politique à imposer son point de vue.
Tout spectacle qui ne provoque pas de dialogue, pour moi, n'est pas un bon spectacle. Et c'est ce qui fait qu'un bon spectacle provoque des remous, provoque des questionnements, s'interroger pourquoi, pendant une représentation, systématiquement, 4-5 personnes vont sortir de la salle, s'intéresser à savoir pourquoi. Est-ce qu'on a touché à un sujet? Peut-être que c'est là la vraie question. C'est peut-être que ces personnes-là, on les a peut-être plus touchées que les autres. Et je crois que c'est ça la vraie question pour moi de faire du spectacle vivant. C'est à quel endroit on touche le vivant. Donc, quelle que soit la forme, pas simplement trouver le plaisir, mais trouver la façon dont le spectateur va être touché et peut-être lui permettre de voir le monde différemment.
On va au lycée Albert Einstein.
Carole Thibault.
Le lycée mécanique auto de Montluçon avec lequel on travaille bien et notamment grâce à une super professeure relais, Sophie Fèvre, qu'on va rencontrer là et qui a développé plein de liens entre le Centre Dramatique National et le lycée. Donc on fait des lectures là-bas, on fait des spectacles dans des formats autonomes techniquement et puis des ateliers et puis les élèves viennent au théâtre, visiter le théâtre, voir des spectacles, ben voilà. Qui
bonjour Bruno.
S'occupe de la médiathèque, s'occupe
merci
de tout.
En fait.
Et qui est notre professeur relais aussi, le théâtre des idées.
Dès que je suis arrivée ici, j'ai pris contact avec le théâtre pour pouvoir travailler.
Sophie Fèvre, professeure documentaliste au lycée professionnel Einstein de Montluçon.
Et tu venais d'arriver, Carole. Et le premier spectacle qu'on a accueilli ici, c'était Les filles de l'industrie. Donc ici, on est un lycée industriel, donc ça a résonné assez fort, en fait, avec les problématiques de nos élèves. Et on a commencé comme ça, et depuis, on n'a jamais arrêté. Et on essaye d'accueillir un spectacle par an, et puis nos élèves vont voir des spectacles aux îles. Le premier réflexe, c'est que les élèves ne veulent pas ni aller au théâtre, ni voir une pièce ici. Parce que ça les intéresse pas, parce qu'ils sont venus ici pour toucher des gros moteurs. Voilà. Et donc le théâtre, c'est pas du tout, ça rentre pas du tout. Maintenant, nous, ça fait partie des programmes scolaires, donc on est bien obligés, donc on leur vend aussi un peu comme ça. Hein. Et puis, donc ça, c'est au départ, on leur explique comment ça va se passer, puis on leur explique bien comment ils doivent se comporter. Voilà. Bon. Et puis après, les réactions, alors là, c'est toujours très surprenant. C'est-à-dire qu'ils sont toujours très choqués qu'on applaudisse longtemps. Donc les premières réactions qu'on a, c'est... Ouais, mais ils abusent là, ils reviennent. Ah bah oui, ils reviennent, c'est le principe en fait. Ils s'en vont puis ils reviennent plusieurs fois les comédiens. Voilà, donc ça peut être choquant. Ensuite, ils disent oui, mais madame, c'est pas du vrai théâtre parce que le vrai théâtre, alors ça c'était drôle, ils m'ont dit le vrai théâtre c'est des gens en robe. Donc là, il y avait personne en robe, donc ça n'allait pas non plus. Ensuite, on discute de ce que ça peut être le théâtre, de comment ça parle de notre vie, de ce qu'on vit dans notre quotidien. Et c'est là-dessus qu'on travaille en fait, à le faire rentrer dans leur vie à eux. Et c'est pour ça qu'on les emmène tout au long de leur scolarité, pour qu'il n'y ait pas une expérience unique, mais que ça devienne quelque chose de naturel, peut-être.
On sait que c'est un public, pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles, qui est neuf, qui n'a jamais vu un spectacle, et qu'effectivement, ce que disait très bien Sophie, c'est que l'image qu'ils en ont, c'est fille madame, fille monsieur, avec des robes d'époque, et on ne dit pas de gros mots, et on ne parle pas comme dans la vie, et c'est toute cette espèce d'imagerie que les gens ont autour d'un théâtre qui ne se fait plus guère, hein, mais... Et c'est en même temps le fait de se dire qu'ils voient un spectacle ici où il n'y a pas des gros décors, parce qu'évidemment on ne trimballe pas des gros décors au lycée, mais qu'il y a un spectacle qui se tient scénographiquement, mais qui pour eux n'a pas du tout l'apanage du théâtre. Donc ça peut être un peu vexant en fait d'assister à c'est quoi cette nana toute seule qui raconte sa vie là devant nous, c'est pas ça le théâtre quoi. Donc c'est étrange parce qu'on arrive et on sent qu'il y a un truc déceptif. Et donc, c'est ça, moi, que j'aime dans ces expériences en itinérance, que ce soit ici ou dans d'autres structures, ça nous oblige à tester d'une certaine manière la puissance du théâtre et aussi de ce qu'on fait. Et est-ce que c'est vraiment une parole universelle? Et il y a des fois, il y en a qui sont pas du tout touchés, qui disent, voilà. Et puis, il y en a, par contre, c'est soit l'un, soit l'autre. Il y en a, ils sont bouleversés. C'est un choc, en fait, de découvrir que, waouh, c'est pas juste l'endroit où on s'ennuie en voyant des gens en robe d'époque.
Oui, on a le souvenir d'élèves qui ont été profondément transformés par des expériences de théâtre. Alors, on le chérit au fond de son cœur, comme ça, pour se raccrocher à tous les autres qui ne sont pas intéressés. J'ai ce souvenir sur une pièce de Carole, Les variations amoureuses. Il y a un élève qui m'a dit, mais madame, en fait, on peut faire ça. Alors, j'ai dit, mais on peut faire quoi? Et il me dit, mais le comédien, là, en fait, c'est son métier, il fait ça. J'ai dit, ben oui. Donc, c'était un élève qui se destine à la plomberie. Et il m'a dit, mais en fait, moi, je veux faire ça. Je dis, mais oui, je crois que ça t'irait bien. Et donc, j'ai donné toutes les informations pour qu'il commence à entrer dans un cours de théâtre, etc. Mais je sais pas, il y a eu une espèce de révélation chez lui.
Ce que je trouve génial, c'est quand on arrive à mélanger des publics, comme le disait Sophie. C'est-à-dire qu'elle a fait venir ici un groupe de personnes âgées de la résidence de Mitis à côté. Et je trouve que c'est aussi une manière de, oui, de valoriser et cet endroit du théâtre. C'est pas de l'animation scolaire, c'est un acte artistique et cet endroit de mixité, en fait. Quoi.
C'est vrai que travailler avec un CDN, quand on est à un lycée professionnel, ça peut paraître contradictoire et pas du tout intuitif. Qu'est-ce que ces élèves-là vont aller faire dans un CDN, justement, avec des pièces et peut-être des thématiques et peut-être des écritures qui peuvent paraître élitistes? Mais en fait, je pense que c'est justement pour ça qu'il faut qu'on y aille. C'est parce que moi, mes élèves, quand je les emmène au théâtre, ils n'ont aucun point de référence. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est le théâtre, de ce que c'est une bonne pièce ou une mauvaise pièce. En revanche, ils savent très très fort ce qui les ennuie ou ce qui les ennuie pas. Et du coup, c'est un public qui peut être très difficile, le public scolaire, parce que ça passe ou ça casse. Il va pas forcément être gentil ou vouloir faire plaisir à l'artiste parce qu'il le ou la connaît. Mais je pense que plus les pièces sont travaillées, les écritures sont intéressantes, sont construites, et plus les élèves vont comprendre qu'il y a quelque chose là qui les intéresse.
Il y a vraiment la question d'élitisme et la question d'intelligence. Je pense que quand on parle de choses élitistes, c'est un peu comme si on déniait à certaines personnes la possibilité d'avoir l'intelligence, de ressentir et la sensibilité. Et je trouve qu'il y a beaucoup de mépris à traiter, à dire que le théâtre est élitiste, par exemple, parce que c'est comme si c'était réservé à une élite et que les autres n'étaient pas une élite.
Alors, en sortant un peu du cas personnel, je dirais que la figure de l'élitisme a été sortie il y a déjà très longtemps. Maintenant, on nous traite de wokistes.
Pierre Ménard.
Je pense que cette contradiction, c'est que tout art est populaire. Parce qu'on peut se dire qu'en France, tout art est accessible au peuple. Alors par contre, le problème, c'est que tous les lieux ne sont pas accessibles au peuple parce qu'il y a une différence de prix. Mais si on regarde à l'échelle européenne et même mondiale, où existe-t-il un tel foisonnement de niveau culturel à ce point-là entre les cinémas, les bibliothèques, les possibilités d'ateliers artistiques dans toutes les formes, et puis tout ce qui va se développer autour des spectacles, des transmissions, des écoles. Je veux dire, non, c'est extrêmement populaire.
Dans un lieu comme celui que j'ai dirigé, ou comme la plupart des scènes publiques en France, le quotidien des gens qui y travaillent, bah on a la partie visible de l'iceberg qui est l'ouverture à l'heure de la représentation pour accueillir des publics, mais une grande partie du travail est une partie invisible pour le plus grand nombre, qui est un travail qui est en prise directe au quotidien avec les gens. Alors, sous la forme d'ateliers, de rencontres, ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, qui prend une place très importante. Dans le théâtre que je dirigeais, 50% de notre activité était dédiée à des représentations scolaires, par exemple. Il n'y avait pas une classe qui venait dans notre théâtre sans avoir suivi un parcours, c'est-à-dire un projet dans lequel les élèves allaient à la fois pratiquer l'art, voir un spectacle, développer leur esprit critique sur le spectacle. Donc cette partie-là de notre travail, elle est rarement visible par toutes et tous, et elle mérite d'être mieux connue.
Lorsqu'on a décidé de s'implanter dans ce lieu à Nantes, donc cette ancienne câblerie, en fait, ce qui nous a motivés, ça a été le fait qu'on était dans une zone industrielle et que le lieu est juste en face d'une cantine des ouvriers. Je me disais, il faut absolument qu'on arrive à franchir quelque chose, c'est à montrer à quel point les artistes travaillent. détruire cette image de l'artiste, la bohème, qui vit une vie tranquille, qui se lève tard. Et donc le lieu, au moment où on l'a visité la première fois, moi tout de suite j'ai regardé cette cantine en me disant « c'est là où il faut qu'on agisse ». C'est-à-dire qu'on soit tous les jours, nous aussi, aller manger à la cantine, et que tous les jours, on puisse montrer à quel point on travaille. Et ça a été un moment très important parce que ça a été un moment où on a fait le croisement avec des gens qui, quotidiennement, se levaient pour aller dans une usine et venir à telle heure manger, repartir, faire leur travail. Et que d'un seul coup, ils se sont rendus compte qu'on était présents. Ils ont commencé à observer que nous, ben, aussi, on demandait leur savoir et qu'ils ont commencé à venir un petit peu à regarder aussi ce qu'on faisait. Et de se rendre compte qu'en fait, on passait des heures, nous aussi, à usiner, dans le sens de chercher, construire et refaire et défaire. Par contre, c'est toujours intéressant de manipuler une sorte de clochette en disant c'est de l'élitisme, parce qu'il faut bien trouver des coupables de quelque chose. Je crois qu'on a. J'ai connu, moi, des époques où, par exemple, quand il y avait des mouvements dans les banlieues, on nous envoyait, nous, les artistes, pour essayer de régler le problème des banlieues. Là, par exemple, Rachida Dati, notre ministre de tutelle, voulait absolument qu'on aille dans les campagnes ou dans les campings, comme si on n'allait pas à ces endroits-là. Il faut lui rappeler que les tournées des CCAS, comme on dit, existaient déjà il y a presque 30 ans, voire même plus, dans les campings, que les festivals de théâtre de rue ont investi les campagnes comme pas possible. Donc il y a toujours cette idée que en gros, si la culture a échoué, c'est parce qu'elle est élitiste.
L'idée que le public se désintéresserait de la culture, je ne la comprends même pas en fait. Mais je parle de la réalité de Montluçon. Moi, j'habite à Montluçon depuis 10 ans, je travaille ici en tant qu'artiste. J'invite des artistes à créer sur ce territoire. C'est l'inverse que je vois. C'est des gens qui me disent « si ce théâtre n'existait pas, je ne pourrais même pas vivre ». Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est que ces lieux sur ces territoires-là. C'est des endroits de vie, c'est des endroits humains extrêmement forts. C'est pas des espèces de temples de la culture un peu hors sol où les gens débarquent, prennent leurs billets en chuchotant. Je veux dire, c'est le bazar ici, hein. Le soir, le bar est ouvert très tôt, les gens viennent, on discute, on parle. Moi, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue, qui me payent un café en me disant « Oh là là, Carole, faut que je vous parle là du dernier spectacle que j'ai vu. J'ai pas aimé, hein. » Alors hop, et on discute. Ça marche comme ça. Je veux dire, on connaît tout le monde. C'est ça, la culture, c'est comment on fait société ensemble, encore une fois. Et donc, ici, ce Centre Dramatique National, il permet de travailler sur ce que c'est que faire société ensemble, c'est-à-dire s'interroger ensemble, être bouleversé ensemble par un acte artistique, être réinterrogé dans nos préconçus sur certaines choses. C'est ça la question culturelle. Donc, faut arrêter le côté, on n'écoute plus les artistes, machin, etc. Mais c'est de la connerie. Ou alors, il faut venir travailler à Montluçon pendant une dizaine d'années, et puis après, oui, on comprendra exactement ce que c'est que le rôle de l'artiste dans la société.
Alors, cette question,
Guy Saez,
d'une forme de dualisme dans la politique culturelle. D'un côté, les grandes institutions, la grande culture, la tradition. Et puis de l'autre, les expériences citoyennes, les petits groupes, les expressions mal reçues ou mal considérées par la grande culture. Ça n'est pas quelque chose de récent. On pourrait même dire que c'est quelque chose qui est un élément structurant, là aussi, de la façon dont on se représente la politique culturelle depuis longtemps. N'oublions pas, par exemple, qu'en 1757, D'Alembert, répondant un petit peu à la demande des bourgeois de Genève, écrit un article dans l'Encyclopédie, bon, dans lequel il dit tout un tas de choses tout à fait agréables sur la ville de Genève, son aspect industrieux, calme, réfléchi, etc. Mais il dit, mais finalement, c'est une ville un petit peu triste, puisqu'elle n'a pas de théâtre. Et donc, il serait bon que vos bourgeois de Genève aient un théâtre, ça leur permettrait d'affiner leur goût. Et ils y trouveraient un certain nombre de plaisirs. Et en plus, ce serait un élément d'attractivité de votre ville. Et donc, lorsque Rousseau entend cela, il devient très très en colère. Et il répond dans sa fameuse lettre à D'Alembert, dans laquelle il fait une analyse du théâtre sur laquelle je ne reviens pas, parce qu'elle est très très connue. Le théâtre est un élément de la corruption des mœurs. Bon, en raison de ce qui se joue sur la scène, on y joue des passions qu'il faudrait quand même laisser de côté, ou en tout cas régler autrement, et aussi en raison du fait que les acteurs sont quand même des gens pas très recommandables du point de vue de leur moralité. Donc le théâtre n'est pas moral, et donc ils corrompent l'esprit. Ils corrompent l'esprit de qui ? Ben des braves gens. L'esprit de ces braves gens, à qui il faut quoi ? Ben il faut de la fête. Seule la fête est le moment où chacun va pouvoir, de façon immédiate, être avec l'autre, s'amuser, sans réfléchir trop, chanter des chansons qui viennent de son patrimoine paysan ou vernaculaire. Et il va monter au mât de cocagne, on va s'amuser, ce sera bon enfant, et c'est ça qu'il faut au peuple. Donc là, vous voyez bien qu'il y a ce dualisme qui est posé, exactement là.
Moi, j'ai un peu envie de dire que je récuse cette histoire qu'on serait incapable de s'adresser au peuple, etc., etc.
Hortense Archambault.
J'ai l'impression que c'est un peu un procès qu'on nous fait, mais que... alors là, pour le coup, je vais me saisir des chiffres pour les évaluer. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de recettes de billetterie de théâtre. Et ça, c'est des chiffres de la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques. Donc, eux, ils ont des perceptions pour les droits d'auteur sur la billetterie. Donc, ils peuvent très, très bien savoir très exactement combien il y a eu de billetterie. Et il y en a de plus en plus. Donc, je pense que c'est vraiment un procès qui nous est fait pour dire que la machine du service public du spectacle vivant est malade et que du coup, on peut s'en débarrasser.
D'où aussi l'éternel reproche de la culture d'être que pour des gens privilégiés, des gens de là-haut, des gens hors sol, etc., qui sont encore dans le papier Bible de la Pléiade, etc., et qui ont la chance d'eux, mais que c'est vraiment les derniers feux d'une caste insupportable. Et la réalité n'est peut-être pas la même dans toutes les géographies, dans tous les types de spectacles. On sent même quelquefois une espèce d'engouement. Les jeunes sont là, et pas que les jeunes obligés de venir parce que c'est une sortie scolaire, mais les jeunes adultes. Ils sont là, ça représente une grande partie du public. Ils viennent pas là que parce que les places sont pas chères et qu'on fait en sorte qu'ils puissent venir. Ils viennent aussi parce que ça les attache et que je sais pas comment ils font entre le monde dans lequel on est, d'algorithmes, etc., et ce que peut leur apporter le spectacle vivant comme une fenêtre d'un air de la montagne un peu différent. Je sais pas.
Je pense que les procès en élitisme, puisque je parle de procès en élitisme, découle en fait d'une forme d'a priori que tout devrait être intelligible de manière littérale en art. Or, l'art, c'est d'abord quelque chose de sensible. Et je mets au défi quiconque de pronostiquer par avance quelle personne va être sensible à tel mode d'expression avant de l'avoir vécu. On n'est pas égaux face à ça, en fait. Et heureusement, c'est-à-dire que dans l'expérience de spectateur ou spectatrice, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, du sensible, de la singularité, qui fait qu'on va être réceptif à telle chose et pas à une autre. Et je crois qu'une partie de notre métier consiste à redonner confiance aux gens dans le fait que tout n'est pas à comprendre de manière intellectualisée, que c'est pas simplement... parce qu'on a eu la chance d'avoir développé un bagage de culture générale fort qu'on peut fréquenter des lieux d'art, mais qu'au contraire, l'art parle directement au sens. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est accentué dans cette définition d'une attente dans la réception d'un spectacle, qui est en partie liée aussi à la manière dont l'audiovisuel a cessé aussi d'accompagner la médiation de la création contemporaine, ou de l'art en général. On a moins d'émissions à des heures de grande écoute où sont invités les créateurs contemporains. Et je pense que dans le travail de pédagogie et d'accompagnement ou de médiation, il y a quelque chose qui s'est aussi un peu perdu. Si on doit faire une autocritique, je pense pas tant que le problème soit la nature des œuvres, que ce qui se développe à peu près dans tout secteur, c'est-à-dire que évidemment qu'à partir du moment où on travaille dans un secteur, on est aussi alimenté par un entre-soi. Donc voilà, dans notre secteur comme ailleurs, certaines évolutions culturelles propres au XXIe siècle peinent à trouver leurs espaces de représentativité dans nos structures ou font l'objet d'une évolution trop lente qui font qu'une partie de nos concitoyennes et de nos concitoyens ne se sentent pas représentés ou ne se reconnaissent pas dans les œuvres qu'on présente. Alors, il y a un mouvement qui est en cours de transformation et de modification, d'accélération de ces processus. Je pense autant à la représentation des diversités sur les scènes hein, que à la faible représentation de certaines pratiques digitales, comme le jeu vidéo, qui ont mis très longtemps à trouver aussi des espaces d'inclusion dans les arts de la scène. Et c'est d'ailleurs au nom de cette mutation qui est en cours que d'autres essayent de nous attaquer parce que ce mouvement-là serait de nature à participer à un éveil de la société et des consciences. Dès qu'on va vouloir changer les représentations et développer la représentativité, bah, finalement, on contrevient au projet, à certains projets politiques réactionnaires. Donc on est pris dans un étau d'une certaine manière.
À qui est confiée la charge de représenter la société ? Bon, ben, je crois qu'aujourd'hui, c'est un enjeu qui était aussi un enjeu esthétique. C'était un enjeu artistique, c'était pas simplement un enjeu politique et social. C'était de se dire, on peut pas éternellement se déguiser pour faire semblant de représenter la totalité de la société. Et puis, ça a aussi fait émerger des nouveaux récits, des récits minoritaires ou minorisés, qui ont trouvé droit de cité aussi par le fait de ce renouvellement, quoi. Et je pense que le changement de physionomie du théâtre français est en cours. Donc, moi, je suis convaincu que la société manque d'art. Je pense pas qu'on fasse d'innovations en matière sociétale qui ne s'adossent pas à des innovations esthétiques puissantes quand on est un lieu d'art. Donc, on a besoin d'innovations esthétiques majeures et de gens qui aient des moyens de créer des œuvres puissantes, c'est évident. Donc, moi, je reste optimiste sur le fait qu'on n'est pas du tout au bout du service que l'art peut rendre à la société.
Je pense qu'on peut vraiment être des endroits où des alliances se créent entre des gens du champ social, entre des gens de l'éducation, entre des gens même du soin, entre des spectateurs, et qu'à un moment donné, on peut être des accélérateurs avec des artistes qui, tout à coup, projettent toute la société civile dans une direction un peu créative pour accélérer les transformations et permettre à des politiques publiques d'avoir des effets très concrets, en fait. Mais ça nécessite qu'on soit du même côté et qu'on puisse essayer de parler la même langue. Moi, je suis convaincue qu'on a un impact énorme, mais en même temps, d'arriver à le prouver, c'est hyper difficile. Donc, on finit par presque être des gourous en train d'affirmer qu'on est en train de sauver le monde tout seul dans nos maisons de la culture. Mais au fond, soit on croit que l'art peut transformer le monde, soit on n'y croit pas.
Merci à Carole Thibault, Fia Ménard, Joris Mathieu, Benoît Lambert, Jean-Yves Coffre, Hortense Archambault, Éric Ruff, Guy Saez, Vincent Guillon et Sophie Fèvre. Documentation, Annelise Signoret, Archivina, Sylvia Monduc, prise de son, Florent Layani, Nicolas Mathias, Dofar Guéride, Claire Levasseur, Benjamin Troncin, Florent Bujon et Nicolas Depagraf. Mixage, Manon Houssin. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. C'était La culture sous pression, deuxième épisode, La guerre culturelle sur scène. Un documentaire de Bruno Binquet, réalisé par Agnès Catou.